T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
Alors que la fin de saison sonnait pour le talk show de C8 TPMP, elle était loin d'être terminée pour son animateur vedette. Au vu des événements récents et de l'actualité riche autour des élections législatives anticipées en France, Cyril Hanouna a fait les prolongations, non pas sur le petit écran, mais sur les ondes. Cyril Hanouna a retrouvé l'antenne d'Europe 1 avec une nouvelle émission intitulée « On marche sur la tête », qui a remplacé brutalement Sophie Davant avec Sophie et les copains du lundi au vendredi de 16 à 18h. Il s'agissait d'un rendez-vous éphémère de 2 semaines qui traitait des informations politiques en lien avec les élections législatives. Entouré de son équipe habituelle, ce nouveau rendez-vous était un prétexte pour donner une énième tribune à l'extrême droite sans oublier de fustiger la LFI et les forces de gauche. Le tout, bien entendu, saupoudré de darka. N'oublions pas que ce n'est que de la télé, la radio en l'occurrence, pas vrai. 7 ans après sa dernière expérience radiophonique, Cyril Hanouna retrouve les studios et le micro d'Europe 1 qui appartient, tout comme C8, CNews et le groupe Canal+, à Vincent Bolloré. De 2013 à 2016, il était à la tête de la quotidienne Les Pieds dans le Plat, une émission mêlant jeux, infos, défis et humour autour de l'actualité. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous pensez quoi dont marche sur la tête de Cyril Hanouna, Arnaud?
Pour moi, c'est une émission problématique avant tout. En termes journalistiques, on est face à un problème très 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 grave parce qu'il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de recul journalistique, il n'y a plus d'analyse. C'est de l'insulte, de la caricature, de l'invective et c'est problématique.
Mais j'ai même du mal à dire que c'est une émission politique. J'ai plus l'impression que c'est une captation de ce qu'on peut voir dans le bar PMU du coin. Et oui. C'est plus un sorte d'édito déguisé. Je peux pas dire que c'est une émission politique. C'est vraiment une bande qui vient pour parler de ce qui s'est passé dans l'actualité sans réelle pertinence, même s'ils s'entourent de personnes plutôt intelligentes. Je pense à Eric Nolo, je pense à Yann Moix, il y a même Valérie Benaïm, il y a Raymond qui est un peu la caution populaire du côté de TPMP, et là il le reprend. Il y a Gilles Verdez qui revient au bout de 2 émissions parce que face aux nombreuses critiques du côté de la ligne éditoriale, eh ben il s'est dit « je vais mettre Gilles Verdez, comme ça, ça va être ma caution gauche ». Mais voilà, on retrouve exactement les mêmes travers que dans l'émission « Touche pas à mon poste ».
Mais moi, c'est surtout une question qui me taraude, c'est à partir de quel moment Cyril Hanouna s'est autant trahi? Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi être un journaliste? La base du journalisme, c'est la neutralité journalistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opinion à donner. Ça, c'est la base. Après, on sait qu'il a changé ça avec ses chroniqueurs doivent donner leur avis. Mais lui, il est censé incarner un peu la neutralité, vu que c'est le présentateur.
Non, justement, il a même expliqué dans une émission que le fait qu'il donne son avis, c'est ce qui a forgé sa réputation et son succès.
Mais non, moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, c'est tellement droitisé qu'il en devient caricatural. Et c'est dommage, parce que je trouve que TPMP, il y a du très bon côté aussi. On peut dédaigner cette émission. Elle fait bouger des choses. On pense, par exemple, à des anciennes prostituées qui sont venues parler, des gens qui ont subi du squattage. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, on s'entend. Donc, il y a du bon dans ces émissions, mais j'ai pas compris d'où ça sortait. Je me suis dit, mais ils sont sponsorisés par Jean-Marc Bardella.
En fait, c'est depuis sa brouille avec Jean-Luc Mélenchon. Et oui. Ensuite, ça s'est intensifié avec Louis Boyard. Ouais. Et depuis, en fait, c'est l'escalade.
C'est pas qu'une campagne anti-LFI qui fait. C'est une propagande RN aussi. Enfin, il va jamais le dire. Il dit, oui, vous savez bien, je partage pas ses idées. Mais je suis désolé, dans l'idéologie qu'il véhicule et ses idéaux. Voilà,
je crois que la goutte qui a fait déborder le vase, c'était lors de la dernière émission de TPMP. Il faisait le débrief des européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a reçu tout le monde. Il a reçu un membre d'En Marche, de Renaissance, du Rassemblement National, de Reconquête. Pas un membre du Nouveau Front Populaire ou de la gauche diverse. Ouais. Et moi, la séquence qui m'a vraiment choqué.
Léon de Fontaine, quand même, si je dis pas de bêtises.
Oui, Léon de Fontaine.
Oui, ça c'est en tout début de semaine. Mais pour la dernière, vraiment, il n'y était pas. Et moi, c'est vraiment la séquence qui m'a choqué, c'est Sarah Knafo, donc du parti Reconquête, qui dit « Oui, vous savez, moi, je ne suis pas contre une alliance avec le RN. » Et Hanouna qui sort son téléphone et qui dit « Si vous voulez, je l'appelle. Hein. » On le fait
en,
ça.
En parlant d'appel et de contact, il se trouve qu'on a appris qu'il avait déjà invité Jordan Bardella à des fêtes privées dans ses villas, dans sa villa à Saint-Tropez notamment. Donc, à partir du moment où un animateur dit que si la LFI passe, je quitte le pays, ou quand il dit à...
Vous avez vu les tweets après?
Et quand je dis... C'est vrai, il y a une cagnotte d'ailleurs en ligne dessus. Ouais. Quand un animateur avec un fort succès qui dit en direct à un député de la France Insoumise que c'est de sa faute si une petite fille juive de 12 ans s'est fait violer,
ouais,
c'est problématique.
Ça.
Là, c'est, sûr, on, là, c'est plus du journalisme, c'est plus du divertissement.
C'est de la haine.
C'est, là,
c'est la haine de l'autre, bien sûr.
Là, c'est en fait, on assiste avec la prise en main de Canal+, d'Europe 1, le JDD aussi, d'une certaine déchéance intellectuelle, j'ai l'impression.
Bien sûr.
C'est-à-dire que tout est permis pour dédiaboliser et crédibiliser le vote Rassemblement National.
Après, on peut se poser la question de la concentration des médias par les milliardaires. D'un côté, c'est pas bien parce que bah, ça empêche la liberté d'expression, ça empêche le pluralisme d'avoir différents points de vue exprimés. Et les journalistes, du coup, ne sont pas totalement libres de faire leur métier comme ils l'entendent. Mais ils financent énormément ces médias. Ils font vivre des centaines de salariés, des centaines de journalistes.
Bien sûr,
Donc, quelque part, la situation est un peu compliquée. Donc, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais c'est grâce à eux que ces médias vivent.
Tout simplement accentuer... Enfin, la CDJ, chez eux, c'est leur com. Donc, la CDJ, c'est, si vous voulez, un peu la cour de justice, pour faire simple, des médias. Quand ils déraillent, eh ben, ils sont appelés devant la cour de justice. Tout simplement la durcir. Comme ça, ils seront peut-être plus restreints et contraints. Aujourd'hui, on sait que TPMP ne sera plus diffusé en direct, par exemple.
On allait en parler, justement.
Donc,
donc,
voilà.
Et on sait que, d'ailleurs, les podcasts de On marche sur la tête ont dû être modifiés parce qu'il y avait tellement de choses, de contre-vérités, de mensonges et d'insultes.
Ouais, et ce manque aussi de recherche et de véracité.
Et pendant les deux semaines de diffusion, il y a même eu une mise en demeure de l'ARCOM. Donc la mise en demeure, c'est en dessous de la sanction, donc de l'amende. À un moment, j'ai l'impression qu'ils jouent avec le feu et peut-être qu'ils s'en foutent d'avoir des amendes Bolloré
pas,
là
oui,
pour les
crois,
payer. Tout ce qui compte pour Bolloré, c'est de faire campagne.
Ouais,
peut-être,
de toute façon, de journalisme, ils ont beau dédiaboliser le RN, caricaturer un peu comme ça là, les chaînes d'information. Le résultat est là, le constat est là, c'est qu'ils ont échoué. C'est-à-dire que le RN n'a pas sa fameuse majorité absolue.
Ouais.
Donc il n'y a pas de Bardella à Matignon. Il faut se poser la question de pourquoi on a laissé faire tout ça pour si peu au final, en fait.
Mais justement, une émission qui a été mise en place en urgence pendant deux semaines, donc pendant la campagne des législatives, est-ce que les intentions de Bolloré, CNews, C8, Europe 1 étaient déjà connu à ce moment-là? Quand on a su qu'il y avait une émission qui allait arriver, on savait pertinemment qu'il y avait une intention derrière, il y avait un objectif très clair.
Ça fait 2-3 ans qu'ils se sont fortement droitisés. Mais après, moi, ça ne me dérange pas en tant que tel, une émission qui se droitise. On a par exemple Quotidien, qui est une émission qui s'est fortement gauchisée aussi et qui va lutter en termes d'audience.
Qui a une audience de gauche, quoi.
Voilà, moi, c'est en fait...
Qu'il y ait des médias de gauche ou de médias de droite, ça ne date pas d'hier. Hein.
Voilà,
Libération, Le Figaro...
L'humanité,
Fox,
c'est...
Même aux États-Unis, c'est la même chose. Fox News,
CNN,
Times, CNN,
ABC,
voilà.
Ouais.
Donc, c'est pas une problématique en soi. Une problématique, c'est... Enfin, je veux dire, Jules Verdez, c'est un prof de médias à l'université. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu peux autant véhiculer de fausses informations dans une émission médiatique qui est autant regardée, avec des propagandes, en fait, des phrases toutes faites par Bardella? Je trouve ça scandaleux. Et pourtant, vraiment, je trouve qu'il y a du bon dans cette émission. On la diabolise souvent, l'émission TPMP, mais elle fait bouger beaucoup de choses.
Mais le basculement, c'est ça.
Voilà,
c'est-à-dire que le basculement de cette émission, il s'est opéré quand Cyril Hanouna s'est emparé de la chose politique.
Oui.
Quand il a commencé à parler de politique...
Justement.
Ça a été le basculement. Parce
par rapport
était,
à ça.
Il est drôle en vrai. Hein.
Ouais, bah, bien sûr.
Il a fait rire. Il m'a fait rire. Mais à partir du moment où il harcelait, il insultait ses chroniqueurs, là j'ai dit stop, je ne peux pas participer à ça. Il y a des limites en fait.
Par rapport au côté politique, ça fait plusieurs années qu'il délaisse le côté divertissement pour se mettre dans la peau d'un animateur politique. On a pu voir ça avec Balance ton poste et puis avec Face à Baba pendant les élections présidentielles 2022. Cyril Hanouna, en tant qu'intervieweur politique, vous pensez quoi?
Eh ben, par contre, ça, le Face à Baba. Honnêtement, il m'avait impressionné. Moi, je pensais que c'était pour faire grossier un animateur où on fait un peu le pitre pour une très bonne chose. D'ailleurs, on en a besoin. Hein. C'est super chouette. Mais je le trouvais très bon et beaucoup plus neutre que ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Je pense à ses débats avec...
Ça avait dépoussiéré le genre.
Franchement, j'avais été impressionné, si je veux être...
Là où les émissions de France Télévisions se pétaient la gueule au niveau des audiences, tu avais Cyril Hanouna avec Face à Baba qui avait réussi
tout en gardant son empreinte.
Donner un nouveau vent de fraîcheur à ce type de programme.
Tout en gardant son empreinte, il lâchait 2-3 vannes par-ci par-là.
Il a réussi à inviter des pointures.
Mélenchon, à l'époque où il s'entendait bien avec lui.
Zemmour aussi, où il était numéro 1.
Emmanuel Macron qui a refusé et qui préférait C'est à vous, quoi.
Par rapport à la ligne éditoriale de On marche sur la tête, il y a Le Parisien qui a fait une enquête et qui a compté le nombre d'intervenants durant ces deux semaines. C'est fou, hein. Alors, c'est une liste non exhaustive. Ouais. Il y a Éric Zemmour, Éric Ciotti, Jordan Bardella, Marion Maréchal-Le Pen, Sarah Knafo. Sur les deux semaines, seulement deux membres du Nouveau Front Populaire ont été invités. Est-ce que ça vous choque ?
Après, est-ce que...
Est-ce que ça vous surprend ?
Alors, moi, ça me surprend. Même si c'est droitisé, ça me surprend parce que la base d'une émission médiatique, c'est confronter des idées. Enfin, d'une émission, quand tu veux te politiser, en tout cas, et tu dois toujours avoir une neutralité, donc c'est-à-dire confronter des idées. Après, apparemment, si je dis pas de bêtises, pas pour faire l'avocat du diable, mais il avait invité beaucoup de gens du Nouveau Front Populaire qui ont désisté. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous avoue, je ne me suis pas assez renseigné là-dessus.
Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, parce qu'en fait...
Il y a un boycott aux côtés des médias de Bolloré.
Ouais, c'est vrai. Possible. En fait, la bolorisation des médias pose une question de déontologie, en fait, journalistique.
Ouais, bien sûr.
Je te pose la question directement, Maxime. C'est, est-ce qu'il y a une vraie différence entre des médias d'opinion et des médias d'information?
Ouais. Bien sûr.
Et là, on se rend compte que depuis que Vincent Bolloré est devenu propriétaire du groupe Canal+, et du JDD et d'Europe 1, c'est que c'est plus Canal+, le groupe Canal+, Europe 1, le JDD, sont devenus des médias d'opinion. Le but premier, c'est d'influencer, mais pas d'informer.
Ouais, et c'est un gros problème parce que tu peux être un média d'opinion, je pense à Touche pas à mon poste, mais à partir du moment où tu cherches à véhiculer de la véracité d'information et à partager une idéologie sur une campagne, tu n'as plus le droit de donner ton opinion. C'est seulement du factuel. C'est la première chose qu'on enseigne en école de journalisme en première année. Un journalisme, c'est factuel. Il enlève son opinion. À partir du moment où tu donnes ton opinion, tu n'es plus une émission journalistique. Mais s'il a voulu se politiser comme il veut faire, en donnant des informations comme il a fait sur Marche sur la tête, tu n'as pas le droit de donner des fausses informations. Pas quand tu pèses 2 millions d'audiences tous les jours.
On sait que On marche sur la tête va revenir en quotidienne à la rentrée sur Europe 1. Ça, c'est officiel. Ça va remplacer Sophie et les copains. En parallèle, Touche pas à mon poste va connaître une modification majeure, puisque comme tu l'as dit, ce ne sera plus en direct. Ouais. Dorénavant, l'ARCOM a été très sévère avec C8, et le patron de la chaîne a promis un différé entre 30 et 45 minutes afin de pouvoir supprimer les séquences qui pourraient causer problème et afin de respecter au maximum la pluralité des opinions. Et ils feront de même avec On marche sur la tête. Est-ce une énorme défaite pour Cyril Hanouna et pour le groupe Bolloré ?
Ah oui, ça c'est sûr. Je suis très mal à...
Est-ce que ça va pas impacter le succès de TPMP ?
Mais c'est ce que j'allais dire, ça va impacter l'audience. Parce que c'est quoi, Touche pas à mon poste ? Touche pas à mon poste, en fait, c'est je m'en fous de tout. Peu importe ce qu'il y a sur ma gueule, je m'en fous de ce qui va m'arriver. Je dis les choses comme j'ai envie de les dire. Je m'en fous si ça dérange, alors qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus polarisé, policé, les discours, donc ils vont sûrement perdre l'audience. Oui.
Je pense surtout qu'ils sont face à une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une constitution, il y a des lois. Et ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, TPMP, c'est l'émission qui a été le plus sanctionnée financièrement de toutes les chaînes. Ils sont arrivés à un barème de 7 millions...
7 millions d'amendes.
7 millions d'amendes. C'est et le deuxième, c'est 400 000. Donc, entre 400 000 et 7 millions, c'est vraiment problématique.
Ouais, merci.
Et donc, je pense que ils sont pragmatiques. Le groupe Bolloré, c'est un groupe qui a des comptes à rendre, qui a des actionnaires. Donc, ils peuvent pas faire...
Est-ce que ce serait pas... le début de la fin pour Cyril Hanouna, cette déconvenue de l'ARCOM et cet échec d'un point de vue éditorial.
Avant le second tour des législatives, j'aurais peut-être dit que non, étant donné qu'on donnait en tête le RN, et le RN, Cyril Hanouna les arrange. En
fait. Puis c'est un secret de Polichinelle, hein. Ça arrange plus Bolloré d'avoir le RN au pouvoir.
Voilà. Mais là maintenant, vu que le rapport de force est moindre au niveau politique, l'Assemblée nationale, dans les années à venir, je pense pas que Cyril Hanouna aura autant de force de frappe qu'il avait avant. En fait.
Et la question qui brûle toutes les lèvres, va-t-il quitter la France?
Non, il l'a dit, il a fait un tweet, il a dit qu'il resterait bien... Enfin, j'étais mort de rire, un flingué de rire. Internet, c'est quand même très marrant.
Ouais, c'est bah oui, mais on.
Ça a des mots écoutés, mais c'est quand même très drôle.
Tu dis quelque chose, on te prend pas. Hein.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'émission On marche sur la tête de Cyril Hanouna sur Europe 1. L'émission sera de retour à la rentrée sur la station. Allez l'écouter, faites-vous votre propre avis, mais si j'étais vous, il y a tellement d'autres émissions plus qualitatives et plus justes dans le propos. C'est ainsi que la séquence éphémère se conclut. Tout de suite, la deuxième rubrique, génie ou escroc. Nous sommes en 2012. François Hollande remporte les élections présidentielles face à Nicolas Sarkozy. Le changement, c'est maintenant. Tel était le slogan et la promesse de l'ancien chef du Parti Socialiste. Mais comme vous vous en doutez, il n'en sera rien. Considéré comme le pire président de la 5ème République, le capitaine du pédalo fera de l'Hexagone la risée du monde. Malgré son inaction et une popularité en chute libre, François Hollande jouera un rôle clé dans le futur du pays. Comment ? Eh ben en nommant un illustre inconnu en tant que ministre de l'économie suite au remaniement du gouvernement en 2014. Ancien banquier, homme d'affaires chez Rothschild, il ne cachera pas longtemps ses ambitions politiques. Voyant le paysage politique se détériorer, il se dit qu'il a une carte à jouer. Une carte qu'il jouera avec brio et une efficacité redoutable. Jeune, dynamique, charmeur, capable de s'adresser à toutes les générations, doté d'un talent pour les formules qui, malgré le côté pittoresque et désuète, reste en tête et marque les esprits. En formant son propre parti nommé En Marche, il provoquera la mort de la gauche et de la droite. Face à un tel engouement médiatique, le PS et les Républicains ne réussiront pas à se relever. Une modernité de façade et une communication redoutable, aidée par la presse et les médias qui lui permettront de devenir le 8e président français sous la 5e République. Alors que l'espoir et le renouveau de la politique se trouvaient sur ses épaules, les Français vont très vite déchanter en voyant sa façon de gouverner. La stratégie, en même temps, vont lasser les électeurs et provoquer de nombreuses crises durant son mandat. Mais malgré le mécontentement des Français et la colère de la classe politique qui exprime son opposition à l'Assemblée nationale, cela n'empêchera pas son gouvernement de mettre en place des réformes libérales et agressives à coups de 49-3, mais surtout de se faire réélire pour un second mandat. Quelle que soit la situation, il parvient toujours à déjouer les pronostics et à se maintenir au pouvoir. Son stratagème lors des dernières élections législatives en est la preuve. Au cours de ses mandats, le chef d'État a eu de nombreux surnoms. Manu le Moderne lors de son élection, Manu le Vieillot quand on constate la fumisterie, Manu l'Oppresseur lors des nombreuses grèves et contestations, Manu le Barbare lors du mouvement des Gilets jaunes, Manu le Méprisant quand il explique à un demandeur d'emploi qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, Manu le Liberticide lors de la crise du Covid. Face à une telle attitude, le président ne cache plus sa volonté d'être la nouvelle incarnation du Roi Soleil. En tout cas, une chose est sûre, il a une vision de la France et ne compte pas lâcher ce qu'il est en train d'entreprendre. Qu'importe les urnes ou l'envie des Français, il ne faiblira pas parce que c'est son projet. Dans une France autrefois douce se dirigeant vers l'inconnu, elle est dorénavant gouvernée par deux choses, son arrogance et son profond mépris. Emmanuel Macron, génie ou escroc ? On va commencer par Maxime.
Bah écoute... Eh bien, celle-là, elle n'est pas facile, parce que c'est vrai que c'est censé être, voilà, pour prendre l'expression de Jordan Bardella, pour lui faire une petite dédicace quand même ce soir, il se prétend être un Mozart de la finance, mais il a plongé le pays en étant le pays le plus endetté de la zone euro, avec plus de 3000 milliards de dettes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même compliqué, mais il a quand même, je trouve, suggéré des crises importantes durant son mandat. Donc, écoute, moi, je vais mettre point d'interrogation, vraiment. Je répondrai peut-être tout à l'heure.
Moi, avec du recul, je dirais que c'est un génie pour la simple et unique raison que pendant 10 ans, il a fait croire à toute la France qu'on pouvait être ni de gauche ni de droite.
Justement.
Mais ça existait déjà, ça s'appelait le Modem avec François Bayrou.
Mais le clivage politique, il était très très fort sous François Bayrou.
Oui, oui.
Mais là, il l'a accentué, il l'a fait croire. Et donc, il y a eu...
Justement, tu dis il l'a fait croire, c'est ça qu'on se dit, est-ce que c'est réellement un génie ?
Mais c'est un génie parce qu'il a réussi. Il a été élu grâce à ça. Je suis ni de gauche ni de droite. C'est en cela qu'il s'est ingénié, en fait. Il a créé tout un mouvement pour sa seule élection. Il s'est émancipé du Parti Socialiste. Il s'est émancipé de son père spirituel, François Hollande. Et il a fait croire à tout le monde qu'on pouvait être ni de gauche ni de droite. Et que si on croit à ça, vous pouvez me rejoindre.
Quoi. Et selon toi, au final, est-ce possible ?
Ben non, mais parce que justement, il y a un retour de bâton maintenant. Le clivage gauche-droite, il n'a jamais été aussi fort.
C'est vrai qu'il a voulu tuer les extrêmes, mais les extrêmes n'ont jamais été aussi forts maintenant.
Part, c'est une escroquerie, du coup.
Le PS renaît de ses cendres, les écologistes sont présents, les communistes aussi font du bruit. Et la France insoumise, c'est la première force...
Et son parti s'essouffle.
Et son parti s'essouffle, oui.
Au détriment de l'extrême droite aussi.
Et au fait, c'est un échec aussi pour ceux qui croyaient, en quittant le PS ou en quittant l'UMP et les Républicains, on pouvait avoir une carrière politique. Certes, pendant 10 ans, mais qu'est-ce que ça sera en 2027 ? Quelle sera la trajectoire d'un Gabriel Attal, d'un Édouard Philippe, d'un Gérald Darmanin ? Ça, c'est une vraie question.
Ça symbolise quoi pour vous, Emmanuel Macron, dans le paysage politique ?
Pour moi, c'est l'élitisme poussé à son paroxysme.
Ouais, je suis d'accord. Je l'aurais pas mieux dit.
Pour moi, c'est ça.
C'est les intérêts à la classe élite.
C'est aussi le mépris. Le mépris de classe. Il y a eu beaucoup de violence.
Oui, bien sûr. Ouais.
Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu.
Pense aux gilets jaunes.
Les gilets jaunes. Ben, gilets jaunes. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont perdu un œil, qui se sont sentis méprisés.
En fait, je pense que. T'as cette impression qu'ils n'écoutent pas le peuple ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'ils méprisent les voix discordantes. Je pense qu'on est arrivé à une situation critique et que s'ils écoutaient un peu le peuple, on n'en serait pas là.
Après, il a quand même dissous l'Assemblée, c'est quand même aussi...
Oui, voilà.
Mais s'il n'y avait pas une manipulation derrière.
Oui, moi je pense qu'avec du recul, tu ne dissous pas l'Assemblée avec alors que tu as 250 députés.
Et surtout, tu ne dissous pas l'Assemblée nationale pour des résultats à l'échelle européenne. Pour moi, ça ne fait aucun sens, ça.
Et moi, j'ai l'impression qu'il s'est fait avoir par ses conseillers. Parce que comme Roger Petit, c'est un conseiller... Qui
était chroniqueur dans TPMP à l'époque.
Ah, je sais pas ça.
Et qui était chroniqueur dans une émission de foot de Pascal Pro.
Ah oh, oui.
Et il faut savoir que Pascal Pro savait l'info de la dissolution avant même les autres journalistes. C'est-à-dire qu'avec du recul, quand j'analyse la situation et ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il s'est fait avoir par ses conseillers. Il n'a pas pris de recul. Il n'a pas écouté son premier ministre Gabriel Attal qui le conseillait de ne pas dissoudre. Il est tombé dans le piège du Rassemblement National. Heureusement... Ils n'ont pas de majorité absolue, mais tout le monde pensait
qu'ils
auraient
pu avoir... Encore deux jours du scrutin, à une semaine du scrutin, on pensait qu'ils se dirigeaient vers une majorité absolue. Hein,
ouais.
Qu'est-ce qu'on va garder d'Emmanuel Macron ? On va se rappeler de quoi, de lui ?
Des gilets jaunes, déjà. De la crise Covid.
A-t-il laissé quelque chose de positif ? Est-ce qu'il a modernisé, révolutionné la façon de faire de la politique ? Ou au contraire, ça aussi, c'était de la poudre de perlimpinpin ?
Moi, il me fait... Moi, il me fait penser à Giscard d'Estaing, un loup solitaire qui a su mener une campagne intelligente, maligne, et qui est arrivé au pouvoir grâce à sa force de dissuasion, à son charisme. Et il a embarqué tout le monde avec lui.
Et un orateur exceptionnel.
Une prestance comme tous les présidents, en fait.
Ouais, bien sûr.
Pour être un grand président ou un président ou un homme politique, un grand homme politique en général, il faut avoir une prestance. J'ai entendu l'autre jour dans une émission télé que le macronisme, ce sera une parenthèse dans l'histoire. C'est-à-dire que le clivage gauche-droite, il reviendra en 2027, comme jamais.
Il est déjà présent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron aussi, c'est plus du tout un centriste. Hein. Regarde, on parle d'une alliance potentielle avec les LR,
qui sont
le parti le plus libre. Le parti démocratique le plus libéral, en tout cas, en France.
La droite républicaine de Laurent Wauquiez. Exactement.
Alors, hormis sa politique et sa vision très libérale, dans le monde culturel, c'est des petites phrases, des petites séquences dans des documentaires, genre « j'aime bien le cordon bleu » ou « je n'ai pas d'amis ouais. » ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un personnage dont on va se rappeler Emmanuel Macron ?
Oui, bien sûr. Oui. Mais de toute façon, même quand tu fais des mauvaises choses, regarde François Hollande, ça a été la présidence la plus catastrophique.
Alors, par contre, question très intéressante, puisqu'il a été élu à 39 ans. C'est très jeune. Mmh. C'est le président le plus jeune de la 5e République, même de l'histoire. Il va arrêter son mandat en 2027, il ne pourra plus se représenter. Mais est-ce qu'il va rester dans la politique ?
Je pense pas.
Ah, moi, je pense pas non plus.
Je pense pas. Ouais. Parce que...
Donc, ton objectif, c'était quoi ? Je viens, je fous la merde et je m'en vais ?
Non, je dirais pas ça. En fait, il faut lui donner le mérite d'avoir tenu tête à Vladimir Poutine.
Aussi, bien sûr.
Et je pense qu'au niveau question de géopolitique et de relations internationales, je trouve que ça a été quelqu'un qui a eu du courage.
Ah oui, oui.
Qui a su dire ce qu'il pensait.
Est-ce qu'il a incarné le rôle de président ?
Ça a fait peur à beaucoup de Français, d'ailleurs.
Ça fait beaucoup de monde, mais je pense que ça fait bouger des lignes. Et ça fait... Au début, on voulait pas donner d'armes aux Ukrainiens. On voulait pas frapper, on voulait pas donner des F-16. F-35, on voulait pas de troupes au sol.
Ah, la France fait toujours bouger des choses, hein. On l'a vu avec le Covid.
C'est vrai, et maintenant, il parle d'une éventualité de confrontation directe entre la Russie.
Merci. Est-ce qu'il avait la stature du président ?
Oui, bien sûr.
Je suis d'accord.
Il a un charisme monstrueux.
Ouais, non, François Hollande avec son président normal à la con.
Et Macron, je trouve que c'est peut-être aujourd'hui l'orateur le plus fort, juste dans la façon dont il pose sa voix, la façon dont il va crier au bon moment sans faire trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire ?
Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens.
Et ça, c'est notre problème.
Il a battu Marine Le Pen deux fois.
Aussi, ouais.
Est-il culte ?
Oui, bien sûr. Oui. Moi, je trouve culte, ouais.
Ah oui, non.
De toute façon, t'as été président, tu rentres dans l'histoire. Hein. C'est le
France.
Ballon d'or, c'est le Ballon
C'est-à-dire
d'or, bien sûr.
Il faut avoir une force de dissuasion, un charisme,
oui, bien
pour
sûr,
convaincre 65 millions de Français.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Emmanuel Macron dans cette seconde rubrique Génie ou escroc. Et on conclut tout de suite avec le débat de la semaine.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Si les résultats des élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale ont provoqué de la joie et de l'euphorie au sein des cadres et militants du Rassemblement national, ces deux éléments ont également provoqué un énorme séisme en France. Voyant que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche de gouverner l'Hexagone, les personnalités de tous les milieux artistiques, sportifs et médiatiques ont exprimé leurs inquiétudes et ont appelé leur communauté à faire barrage au RN lors des législatives. Les artistes qui s'engagent n'est pas un phénomène nouveau. On a déjà assisté à une situation similaire en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour de la présidentielle. Mais cette fois-ci, ce phénomène a pris une autre ampleur étant donné que la société n'a jamais été aussi fracturée. Dans cette campagne, deux noms ont été au centre de tous les débats par rapport à leur prise de position. Tout d'abord, Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France et joueur le plus populaire de l'Hexagone, a incité son public de manière habile, afin qu'on ne puisse pas lui tomber dessus, de ne pas voter pour le RN. Une partie de l'équipe de France a également appelé à faire ce choix durant les élections. Mais le nom qui a le plus surpris est celui de l'ex-premier youtubeur de France, Squeezie. N'ayant jamais pour habitude de s'exprimer sur des sujets politiques, le vidéaste et streamer a publié une lettre sur ses réseaux appelant sa communauté à ne pas voter pour l'extrême droite. Une prise de position saluée en majorité, mais qui n'a pas empêché les critiques des politiques. D'ailleurs, Squeezie a perdu plus de 100 000 abonnés en guise de protestation. Au final, le Front Populaire et l'appel des artistes à faire barrage semblent avoir fonctionné. Le RN n'arrive qu'en troisième position et ne parvient pas à avoir une majorité absolue ou relative. Toutefois, on remarque que les appels des personnalités agacent de plus en plus une partie de la population qui ne supporte plus de recevoir des leçons de ceux qui ne vivent pas leurs soucis au quotidien. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Que pensez-vous de manière générale de ces artistes et personnalités qui s'expriment, qui expriment leurs opinions politiques durant des élections ou durant des événements politiques majeurs ?
Alors moi, ça dépend. Ça dépend leur statut, ça dépend ce qu'ils ont fait aussi dans leur vie. Je trouve que par exemple, une Maëva Guénam qui est partie à Dubaï s'éclipser, j'ai un peu du mal quand elle va donner son opinion. Après, quelqu'un comme Squeezie, moi ça m'a pas dérangé. J'ai compris la polémique qu'il y avait autour. Je trouve que son message était déjà constructif. C'était un message qui avait été travaillé, c'est pas juste une information qu'elle lançait comme ça. Et puis quelque part, ça reste un citoyen. C'est-à-dire qu'un citoyen, même si c'est une personnalité publique, c'est la liberté d'expression, il a le droit de dire aussi ce qu'il pense et ce qu'il va voter. Donc ça dépend vraiment qui, moi.
Non, oui, moi je pense que c'est important et c'est même essentiel. On ne saura jamais, hein, parce que c'est toujours des suppositions, mais peut-être grâce à ça ou pas, ça a évité un homme
sûrement
d'extrême droite à Matignon.
Bah, en tout cas, le taux de participation a été le plus élevé depuis les années 70,
ouais,
me semble.
78, c'est ça. 78, exactement. Mais justement, c'est important, et comme on en parlait tout à l'heure avec Bernard Tapie, et la manière dont on attaque l'extrême droite, comment on barre la route à l'extrême droite. Je pense que si tu as une voix, il faut l'utiliser. Si tu as un statut social, il faut l'utiliser. Si tu as une plateforme, il faut l'utiliser.
Ouais, moi, je trouve vraiment que ça dépend qui. Moi, par exemple, des gens comme Maëva Guénam, qui sont partis à Dubaï, elle a sorti quand même. Moi, je défends les pauvres. On m'a demandé en tant que député à la LFI. Je me dis.
Non, mais des personnalités comme Yannick Noah,
mais
Omar
ça, c'est
Sy,
très bien. Mais ouais, mais c'est des gens, ils ont.
Mais
ils ont
qui vivent aux États-Unis.
Ah, moi, ça me dérange pas ça.
Non, ça me dérange. Ça,
parce qu'ils ont.
Ils sont français.
Voilà,
hein.
C'est ce que j'allais dire. Ah. C'est, tu vois, ils ont la nationalité française. Ça m'aurait dérangé s'il était parti quand il avait 10 ans vivre dans un autre pays, parce que voilà, il comprendrait rien à la politique.
Mais par rapport aux artistes de façon générale, tous ces sportifs, tous ces acteurs, musiciens, est-ce que vous comprenez les critiques? À leur rencontre, beaucoup parlent de mépris pour près de 40% de la population.
J'entends, parce que c'est vrai que voilà, un Mbappé, par exemple, il est hors sol. C'est quelqu'un qui va gagner 1 milliard à l'année. quand il avait signé son contrat. Voilà, donc il est hors réalité. Donc ça, je peux l'entendre, mais ça reste un citoyen. Citoyen, il a le droit.
Pour ces gens-là, on dit que ce sont des donneurs de leçons, qui ne savent pas dans quel monde nous vivons, qui sont déconnectés.
J'entends. Voilà,
c'est un citoyen et c'est une personne racisée aussi.
Voilà,
potentiellement victime de racisme sur les terrains.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'UEFA, en fait, il faut pas oublier que l'UEFA donne des prérogatives. Les joueurs de football doivent se battre contre le racisme.
Mmh. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai, l'homophobie.
Et après, on nous demande de nous taire quand il y a un parti xénophobe et raciste qui peut potentiellement arriver au pouvoir.
Par rapport à ça, aussi. Mais est-ce démocratique d'appeler à ne pas voter pour un parti ?
Ben oui, parce que justement, les politiciens font ça. Ne votez pas pour eux, votez pour moi. Je suis la solution, c'est eux le problème. Mmh. Pourquoi un citoyen ne pourrait pas le faire ?
Ouais.
Alors, quand un artiste s'engage, on dit qu'il est donneur de leçons et déconnecté de la réalité, mais quand il ne s'engage pas, eh ben on dit qu'il est peureux ou qu'il ne pense qu'à sa gueule. Alors en fait, que faire ? Dans les deux cas, on est perdant.
Oui, on a aussi vu la polémique avec Thibaut Inchep. On disait qu'il était, quand tu t'engages pas, c'est-à-dire que tu es électeur du RN, par exemple.
Puis il y a la polémique, ça c'est les électeurs de gauche, qui ont reproché à Kylian Mbappé, à Aurélien Tchouaméni et aussi à Ousmane Dembélé de dire qu'ils étaient contre les extrêmes. Donc ils mettent l'extrême droite et l'extrême gauche sur un même pied d'égalité.
Mais c'est leur droit aussi.
Alors d'un côté,
c'est leur droit aussi.
On se plaint des artistes qui appellent à ne pas voter pour le Rassemblement National, donc de voter pour le Nouveau Front Populaire ou pour Renaissance. Mais d'un autre côté, on a les médias qui ont fait une campagne contre le Nouveau Front Populaire. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai halluciné la diabolisation du NFP qui est... donc un mouvement de gauche, on a quand même essayé de nous faire croire que ça valait le Rassemblement National.
Mais c'est parce que le NFP aujourd'hui, c'est pas un rassemblement de gauche pour beaucoup, c'est la LFI.
Mais ça,
c'est la grosse problématique.
Et moi, je pense que c'est problématique. Moi, il y a une séquence qui m'a marqué, et c'était pas sur Touche pas à mon poste, mais c'était sur LCI, c'est la chaîne d'information de TF1. Il y avait une écologiste qui était invitée et qui disait que le Rassemblement National était un parti xénophobe et raciste. Et les présentateurs avaient l'air choqués. Oh, ah bon ? C'est vrai ? Et là, on se dit, mais comment on en est arrivé à ce point, au point d'être choqué, de dire que le RN est un parti qui divise les gens et qui stigmatise les gens ?
Bien sûr.
Alors, par rapport aux artistes qui se sont engagés durant les législatives, on a également un collectif de 20 rappeurs qui ont sorti, quelques jours avant le scrutin, une chanson qui s'intitule No Passaran. Alors parmi les rappeurs, on avait Fianso, on avait Akhenaten, on avait RK, Zola. Le titre c'est No Passaran et autant vous dire qu'il n'a pas fait l'unanimité et qu'il a même été contre-productif. Je vous laisse écouter un extrait.
Les guerres, y'a du monde pour les guider, vite, y'a personne pour les faire. Je peux me cramer pour mes idées libres, je peux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les six trains, c'est news dans l'angle mort. Je coupe ce tremblement, fuck le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan,
votre avis ?
Bon, on en parlait en coulisses. Hein. Moi, je me suis d'abord demandé s'ils n'étaient pas sponsorisés par le RN, parce qu'ils ont fait, au début, la première écoute en tout cas, une déchéance de ce que pouvait représenter la cité. On sait à quel point aujourd'hui ils se sont pointés du doigt les immigrés.
Dans le clip, on pouvait voir des armes, de la drogue,
Je pense à une phrase de Zola qui dit « Même si vous votez pour le Bardella, la bœuf passera de Marbella », alors qu'ils dénoncent tout ça. Mais je me suis dit, mais ils sont débiles ou quoi ?
RK qui a dit « Je vote pas, je m'y connais pas, mais il faut pas voter RN ». Donc ça aussi, c'est pas...
Ça m'a moins dérangé. Moi, c'est plus les « On va tirer dessus ». Il a dit aussi sur Jordan Bardella. Donc,
ou alors Al Capote qui a été dans un discours très complotiste.
C'est du Al Capote, ça. Alors qu'à l'époque, t'avais des Diams, des MC Solar qui t'ont lâché des morceaux monstrueux.
Aussi, hein. C'était violent.
Oui, mais attention.
Dans les années 80 et 90, en fait, il faut
aussi... Oui, il y a aussi un contexte à prendre en compte, d'accord.
Il y a un contexte c'est-à-dire que contexte, le rap, il est né quoi ? Il est né comment ?
C'est dans les années 70.
Dans le Bronx, c'est une musique contestataire, en fait, avant tout.
Anti-politique, oui.
Anti-flic, anti-policier, anti-raciste aussi. Donc, en fait, c'est un contexte et je pense que les paroles sont le reflet de notre époque aussi. Comme les paroles des années 80-90 sont le reflet de cette époque-là aussi.
À l'époque, dire le Front National est un parti de fachos, c'était moins dérangeant que de le dire pour le Rassemblement National.
Je suis totalement d'accord, mais je trouve qu'ils auraient dû laisser la bœuf et les armes à côté, tu vois. Allez, pour moi, c'était une passe dé à la Kevin De Bruyne à la 90e en finale de Ligue des Champions, ce qu'ils ont fait hier. Enfin, en tout cas, il y a des phrases. Ce qu'ils ont fait avec ces phrases-là, c'est nourrir le Rassemblement National. Quand c'est dans le son, je trouve que ça va. Mais quand tu les prends hors contexte, c'est une passe-d pour des journalismes de droite.
Il n'y a pas eu un peu une exagération, parce qu'on en a quand même dit que c'était un appel au meurtre, un appel à la violence, à la haine.
C'est ce que je te parle des phrases hors contexte.
Parce que Jordan t'es mort, on sait tous que ça vient du fameux match de Cédric Doumbé, son fameux combat.
Jordan Azebo, pardon.
En fait, tu tends une perche, le hip-hop, le rap en général est violent. Donc ça fait des années, ça fait même des décennies que l'extrême droite stigmatise les rappeurs, appelle à sanctionner, à les poursuivre en justice. Il y a des précédents judiciaires où ça ne donne pas grand-chose, à part à l'époque dans les années 80. Mais c'est sûr que la réaction, elle est au niveau de la détestation qu'ils ont et de l'image qu'ils ont du rap, en fait. Donc voilà, ça ne m'étonne pas.
Ouais,
tu me donnes une passe décisive, tu tords la perche au Rassemblement National, et ben ils vont te répondre avec leurs éléments de langage.
Oui. On va conclure cette émission spéciale avec cette dernière question. Donc, on a bien vu que les artistes se sont énormément engagés et ont appelé leur communauté à faire barrage au Rassemblement National durant le vote. Mais jouent-ils encore un rôle important auprès de la population? Est-ce qu'ils font encore trembler les politiques, les artistes?
Bien sûr, parce que...
Je pose cette question parce que quand on entend beaucoup de gens dire on en a marre de ces gens hors sol, on en a marre qu'on nous donne des leçons, vous vivez pas notre vie, laissez-nous faire nos choix, vous êtes personne pour nous dire comment voter. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que les personnalités de façon générale ont encore un impact, une importance?
Oui, ça je pense.
Oui, on est d'accord.
Oui, je crois qu'ils ont beaucoup. Je ne suis pas la science infuse, mais je pense qu'ils ont énormément impacté ces législatives, c'est sûr.
Squeezie, c'est un influenceur.
Bien sûr.
Maëva Guénam, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une influenceuse.
Après, Squeezie a quand même perdu 100 000 abonnés par rapport à sa prise de position.
Oui, mais on n'a pas Jordan Bardella à Matignon. Ils n'ont pas 289 députés, la majorité absolue.
Ouais.
Donc on ne dira pas, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la prise de parole des influenceurs, des personnalités, des célébrités, des footballeurs, des chanteurs? Est-ce qu'il y a une corrélation entre...
Mais c'est marrant de voir que dès que tu constates qu'un acteur ou un artiste que tu apprécies ne vote pas la même chose que toi, le premier réflexe c'est je me désabonne, je veux plus le voir. Est-ce que c'est pas une preuve supplémentaire de la fracture en France?
L'abonnement, c'est son gagne-pain. En fait, être suivi, au plus t'es suivi, au plus tu peux donner de la visibilité à des marques, etc. Ouais. Donc voilà, ça c'est son gagne-pain, ça c'est sûr. C'est une action qui sanctionne la personnalité. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup plus violent pour un sportif, une célébrité, de parler de sujets de société. J'ai remarqué qu'à l'heure des conflits dans le monde, que ce soit en Afrique, dans le Moyen-Orient, et puis la crise politique, le populisme qui monte en Europe et en Occident, tu demandais même à un barman de se positionner sur le conflit israélo-palestinien, il pouvait perdre son boulot dans les années 2000-2010. Maintenant, tout le monde est pro-Palestine, tout le monde est pro-Ukraine, et ça ne pose plus de problème, en fait. C'est plus aussi violent. Mais c'est clivant, ça reste clivant, mais ce n'est pas aussi clivant que quand moi et famille, on était au lycée. Quoi.
Ouais.
Je pense.
Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève. Thank you very much for coming out this evening. Thank you. Complètement corrompu, c'est terminé. C'était complètement bien. Malheureusement, toujours pas de bruitage pour alimenter cette émission et la faire vivre davantage, mais ça ne fait rien. Vous étiez là et c'est le plus important. Maxime, toujours un plaisir de te voir dans ce studio et de refaire des émissions.
Eh ben, tout le plaisir est pour moi.
Et Arnaud, le politologue. Merci d'avoir accepté mon invitation et ça m'a fait très plaisir de parler politique au travers de la culture et autres avec toi ce soir.
Merci à toi, merci pour l'invitation et prenez soin de vous.
Et j'espère que ça t'a plu. Et que...
Bien sûr, je reviendrai.
Avec grand plaisir. Et on part du principe que chaque émission est la dernière, donc à ciao, bonsoir.
Bonsoir, prenez soin de vous.
Au revoir. Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir.